WMFO.
91.3 FM.
But basically, that's been a while, huh?
We've been doing this. You know.
Yes. Hey, we're going to ask. We're going to ask.
Probably we can ask. Batwell Rada.
Avertis vice, nous pas faire ça, c'est nous qui sonnaille, c'est nous qui jouons compa. Avec Jacou, pour changer de juin, nous pas faire ça. Pas de balance
qui
cabeza compa. Masse compa.
Ah ouais. Nous pas faire un coup, joue cuite du soir. Et c'est grâce à WMFO, 91,5 FM, série de 2020.
Fais le bon comme ça, mon cher. Hello, Brownie. Hey, bella. Mickey, on tue le chalet. Bon, c'est l'envers, les jaunes sorties. Chala. Et puis si monsieur Jazz là c'est pas vieux l'envers pour moi s'il vous plaît.
Eh bien, pas oublier c'est en bateau de la caille oui qui vient jouer non. Et puis n'a pas avec au jour 8h du soir, c'est grâce à WMFO 91,5 FM stéréo depuis Medford. Et c'est grâce à Tufts University, nous venons jouer, non? Et puis, depuis elle, il fait 6h, bang! Et puis, c'est dimanche soir, lié. Eh bien, vous connaissez qui côté pour mettre Chita. On a toujours porté en cause pour vous, si vous avez un rapport avec la culture haïtienne et information. Et général sous et tout le monde respond là et ça a passé tout partout nous toujours gagné avec Kondi Mounio et camarade Paul Kadicho qui jouait rôle porter nouvelles internationales pour nous toute cause qui concernait la caille tout. Et monsieur toujours venu avec question ça yo cousin Martino fait même coup de bois pour nous et puis tout nous même tout temps en temps nous présenter l'autre aspect où on est depuis ba qui en rapport avec culture langue dans toute langue qui dans et en présence dans pays nous mais particulièrement langue créole là
nous pour nous bali priorité et puis pendant nous toujours encourager parce que dans la société haïtienne gagner en politique là c'est parce que fois et en pile question et maillé et mon ne pas fin saisi tout parfois et c'est clairement sa qualification ça pour monde continuer toujours à faire les ou dit monde c'est parce que toute recherche montre les monde apprendre dans langue qui langue maman yo langue yo levé la dan yo toujours remettre plus parce que plus bien yo toujours faire plus belle bagaille et non yo yo apprendre plus bien et puis apprentissage est plus facile pour yo et puis ça pas veut dire pas qu'apprendre yo qu'apprendre l'autre langue tout monde qui apprend toute l'autre langue et mais c'est ça que gars de monde qui apprend créole pas noir pendant que yo pendant yo parler langue pas yo et puis pendant yo connaît l'autre langue etc nous même tout pendant nous connaît plusieurs autres langues nous connaissons mais en pile fois là nous fin saisir une notion dans langue pas nous là nous venir dans l'autre langue yo qui c'est français qui c'est anglais qui c'est espagnol qui c'est portugais qui c'est n'importe quelle langue n'a plus sur yo et puis donc li toujours plus facile pour nous c'est ça que fait mais bon ici on connaît des pour avec nous on a fait ça et je et n'a souhaité n'a saluer cousin Odlen n'a saluer cousin Chenier n'a saluer mon Cambridge nam salue et nous même mon Watertown yo mon Watertown bonsoir et puis nap salue mon Arlington yo mon Somerville yo mon Dillon yo côté nous hein mon Chili yo et il y a mon Brésil yo comment nous y est mon Haïti yo comment nous y est mon Ansafoule en Safoule c'est une ville qui dans département nord-ouest li a continué c'est les ou quitter port de paix ou pas ou aller Saint-Louis du Nord et puis lorsque c'est dans Saint-Louis du Nord et pour la ou aller en Safoule et n'a salut mon Safoule et depuis mon Safoule attendez moi sur monde qui dans Bas-de-Saint-Anne nous je me connais expliquer nous côté que les Bas-de-Saint-Anne c'est un côté et moi fait séminaire plusieurs fois côté ça yo n'a pas salué monde bat Saint Anne et puis tout c'est dans départ dans tout côté m'a parlé nous c'est en dedans ville c'est en dans pays a yo tout hier et c'est ça que fait nous toujours une position pour nous dire quel que soit problème qui gagne dans capitale là c'est les nous si nous sérieux dans résoudre problème là n'a connaissé si c'est capitale là Port-au-Prince qui gagne problème là et puis nous résoudre problème Port-au-Prince là n'a cherché résoudre problème Port-au-Prince là. Mais si nous pensons parce que bagarre a passé pour tout président nécessairement passé en sa fouleur, nous connaissons pas bon. Il y a des choses qu'on arrive tout. Il y a des fois un bagarre qui passe pour tout président qu'on reflète en aïe, qu'on est l'autre côté dans l'autre ville, mais c'est pas toujours comme ça. Et parce que nous pas toujours chercher solution comme ça, il toujours paraît même j'en ai l'esprit tout le monde. Bah qui yo pas veut décentraliser yo centraliser tout ça qui passe à dedans pays donc depuis bah la passe Port-au-Prince capitale nous faut nous faire tout un série de bagages puis yo mettre en tête que ou bien yo voulez que c'est comme ça pour bah l'interpréter alors ce que sous prend yo même si yo était au côté tout près yo gon ville qui tout près si on bagage passer dans ville là yo parler de ville côté y a passé à nous c'est ça nous fait si on va passer Cambridge nous pas dit son bagage qui passer dans tout États-Unis nous pas dit son bail cap passer là toute Boston mais nous dit son bail cap passer Cambridge li gen la sa cap passer Cambridge est terrible li gen la c'est nous-mêmes qui victime de on sa cap passer là on monde pas nous qui victime mais ça pas fait que son bail cap passer dans tout États-Unis et li important là on sait de Zack poser dans tout pays on pense li important pour nous faire éclaircissement ça et puis c'est comme ça tout n'a pas apporter solution parce que deux fois deux monde qui pas j'aime quitter la caillou yo en Haïti yo étant dans la caillou et puis yo chita attend des nouvelles tout temps et puis sous parle et puis c'est avec yo malheureusement pile dans nous parler et puis yo fait tant nos nouvelles yo dit mes amis mais yo dit yo surtout au monde Port-au-Prince Port-au-Prince et puis mandé monde dit qu'il même yo même monde ça regarder en pile là il pas même compte Port-au-Prince mais il a des nouvelles et puis il a répété même avec tout monde ça pas veut dire pas gain problème non nous dit là ou poser problème puis bien tout problème qui poser puis bien ou capable de venir une solution parfois poser un problème ou résoudre solution qui doit pas aller dans goût ou grave pas même solution que deux fois parce que c'est deux problèmes qui gagne c'est solution mais c'est solution comment c'est ça qui lié c'est ça lié pour poser problème de façon pour pas bailler solution ou bien pour pas poser problème au mal depuis problème posé mal nous dit nous gagner toute notre qualité de caca nous ca gagner donc n'a salué où et puis qui est-ce nous t'a checké là bah moi si nous t'a checké en bon point moi quelques jours pas gentil Amos non en gentil Amos Coulange non n'a ponti Amos Coulange pour mon Boston capitaine de nous là en nous prend un petit côté Amos Coulange ou parler pour capable condimonio et ce que mon nan fond bois en nous ouais sina nan fond bois avec Amos Coulange. Amos Coulange nan fond bois. Merci. Et sou te sou craser quelque coden nan fond bois a pouvoir le joindre nous. C'est travail nous connaît. En pile moun interprète musique ça yo parce qu'en pile là d'ailleurs, c'est musique qui entre dans folklore nous et en pile là pour classique. On retourner tout à l'heure comme ça n'a tourner avec Amos Coulange. Chapitre 12. La cause de la liberté universelle. À la suite de la révolution haïtienne et de ses conséquences, Toussaint et ses camarades se sont effacés
de la conscience historique européenne, ce qui ne signifie pas que sa renommée populaire ait disparu avec lui dans les monts du Jura. Bien au contraire. Au contraire, au cours des 20e siècle, il est devenu une icône. Non seulement dans le nouvel État indépendant d'Haïti, mais dans l'ensemble du monde atlantique. Une légende symbolisant la puissance d'inspiration de la révolution de Saint-Domingue, encourageant tous ceux qui luttaient pour l'émancipation des esclaves et la fraternité universelle ou pour des changements politiques radicaux au sein de leur propre société, incarcéré après l'attaque de la caserne de Moncada en 1954, Fidel Castro écrit que l'épisode historique qui l'a poussé à révolutionner Cuba de haut en bas est l'insurrection des esclaves noirs d'Haïti. Avant d'ajouter, au moment où Napoléon imitait César, et où la France ressemblait à Rome, l'âme de Spartacus renaissait en toute son ouverture. Cette force d'inspiration, c'était une citation de Fidel Castro. Cette force d'inspiration est déjà manifeste lors des dernières années de gouvernement de Toussaint, une période qui fonde sa réputation international de héros libérateurs pour ceux qui veulent défier les classes dirigeantes esclavagistes et sa réputation de croque-mitaine terrifiant pour les esclavagistes. Sur la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle, voient se multiplier des rébellions de nouveaux types dans l'ensemble des Caraïbes et des Amériques. À des révoltes individuelles succédèrent des tentatives conscientes de renverser l'esclavage en tant que système. Donc c'est dans ce contexte que les révolutionnaires de Saint-Domingue s'emparent de l'imaginaire collectif de leurs contemporains, un phénomène d'autant plus remarquable que Toussaint lui-même n'a pas fait grand-chose de concret pour exporter sa révolution dans d'autres territoires. On peut voir l'apparition spontanée d'un culte louverturien et l'entendre car dans le répertoire populaire de la région, des chansons célèbrent Toussaint qui a instauré la liberté et plutôt l'égalité sociale et l'autonomie politique à Saint-Domingue. Une des nombreuses chansons composées par des esclaves jamaïcains en l'honneur du territoire français et qui résonne fréquemment dans les rues de Kingston en 1799 rappelle dans son refrain que noirs, blancs ou bruns sont tous les mêmes. Toussaint est également acclamé comme contre-pouvoir martial affrontant la force des puissances coloniales impérialistes. Peu après qu'il a arraché Santo Domingo aux Espagnols, les Noirs libres et les esclaves des montagnes environnant Coro dans l'ouest du Venezuela, qui s'étaient déjà révoltés en 1795, se réjouissent ouvertement de la victoire de leur idole, qu'ils rebaptisent le Boutefeu, avant de finir sur un refrain menaçant visant les autorités. Gare à eux ! Les figures légendaires ont le pouvoir d'incarner des caractéristiques contradictoires. Et c'est ainsi qu'à côté des idéaux de bonne gouvernance et d'égalité raciale, facteur d'harmonie, ces idéalisations populaires sont aussi nourris le mythe subversif du Black Power, pouvoir noir, dans la colonie hollandaise de Curaçao, au sud de la région
Caraïbes en 1795, une révolte d'esclaves s'inspira non seulement de l'abolitionnisme domingrois, mais de ses chefs charismatiques modèles républicains pour leurs frères. Un des rebelles exécutés par les autorités hollandaises se faisait appeler Toussaint, et de nombreux parents noirs se mirent à donner ce prénom à leurs enfants. Donc, dans la légende louverturienne, le thème de la lutte est suffisamment puissant pour susciter des révoltes, y compris en Guadeloupe en 1797, un territoire républicain où l'esclavage a été officiellement aboli. À Marie-Galante, une île dépendante de la Guadeloupe, puis dans la ville de Lamantin, les insurgés appellent les travailleurs des plantations à renverser le pouvoir économique des Blancs. Donc leur discours est fait discrètement ou directement référence à la situation de Saint-Domingue où, affirme-t-il, chacun fait ce qui lui plaît et ceux qui commandent sont tous noirs et où les femmes blanches vont avec les noirs. Quant aux officiels français, ils étaient persuadés que l'élément déclencheur de ces insurrections avait été la décision prise par Toussaint de renvoyer son tonax de Saint-Domingue. Donc, de même, en mai 1799, lors de la répression d'une conspiration organisée par des Noirs et des gens de couleur dans la ville côtière de Maracaibo au Venezuela, les autorités découvrent que les conjurés voulaient introduire le même système de liberté et d'égalité qu'à Saint-Domingue. Donc, des complots similaires sont découverts au Brésil et en Uruguay, où les idéaux louverturiens d'égalité et de fraternité sont disséminés par des esclaves ou des hommes libres de couleur. Dans cet idéal du Black Power se cristallise souvent autour d'anecdotes, d'objets et de rumeurs relatives à l'armée républicaine de Toussaint. Donc, après l'expulsion des Britanniques de Saint-Domingue en 1798, des rumeurs commencent à courir dans toute la région. Donc, Toussaint aurait des plans secrets pour attaquer Santo Domingo, ce qu'il va effectivement faire. Mais aussi pour envoyer des corps expéditionnaires à Cuba, à la Jamaïque, à Sainte-Lucie, à Tobago, à Porto Rico, au Mexique et aux États-Unis. Donc, en juillet 1798, l'inquiétude gagne les Virginiens blancs. Des rumeurs persistantes font état d'un certain nombre de navires domingrois se dirigeant vers la baie de Shakespeare, en chargé de nègres en armes. Deux ans plus tard, la lointaine figure de Toussaint Louverture plane sur le projet de révolte d'esclaves préparé par Gabriel Prosser en Virginie. Donc, il n'y avait pas de limite géographique à cet expansionnisme louverturien. L'une des rumeurs dont les autorités cubaines ont vanté en 1800 suggère même que Toussaint a pour projet de prendre le contrôle de la totalité du globe. Ces récits fantastiques connaissaient toutes sortes de variantes. Un journal de Baltimore affirma que Toussaint cherchait à mettre en œuvre ses plans pour dominer le monde, mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour financer ses opérations. Donc la solution qu'il avait trouvée était de faire chanter les autorités jamaïcaines en menaçant d'attaquer l'île si elle ne lui versait pas 200 000 goudes tous les trois mois, preuve que le mythe de Toussaint tenait compte de son souci minutieux du détail. Toussaint Louverture est le premier super-héros noir de l'histoire moderne. Les principaux éléments de sa légende sont déjà en place au moment où il quitte l'arène politique au début du 19e siècle. Il est considéré comme un sauveur, un héros militaire et un symbole de virilité, un grand législateur. Sa constitution de 1801 fait date, le symbole d'une identité noire émancipée et de l'esprit invincible de l'homme, comme le dit William Wordsworth dans un poème de 1802. Conformément aux traditions vaudoues qui divinisent les ancêtres puissants et en dépit de ses propres tentatives pour supprimer ce culte populaire durant les dernières années de son pouvoir, Toussaint finit par prendre place aux côtés de Dessalines parmi les lois d'Haïti. D'après la tradition haïtienne, ses principales décisions étaient de guider par Ogonfer, le dieu de la guerre. Donc un chant vaudou traditionnel célébrait les contradictions des deux hommes à la lutte pour l'indépendance haïtienne, acclamant Toussaint qui n'avait pas peur de mourir et Dessalines, le taureau d'Haïti. La légende de Toussaint, nous l'avons vu, a initialement été forgée par des traditions populaires orales relatant les exploits des révolutionnaires de Saint-Domingue. Ces récits sont devenus une part intégrante de la mémoire collective et du folklore haïtien, puis ont été adaptés par les communautés d'esclaves, de noirs, de libres et de métis du monde atlantique. Comme l'homme qui leur a donné naissance, ces récits voyagent à une vitesse extraordinaire. Ils commencent à circuler à la suite de l'insurrection de 1791 et des premières victoires militaires de Toussaint contre les Espagnols en 1794-1795. En 1794, un planteur de la colonie britannique de Tobago note avec inquiétude dans une lettre que beaucoup d'esclaves sont devenus imbus de l'idée de fraternité et se croient désormais les égaux de leur maître. Il craint qu'ils ne s'allient pour exterminer les propriétaires des colonies. Donc plus tard, la diffusion de ces idées révolutionnaires est aussi assurée par des journaux, des pamphlets, des brochures au bon marché, ainsi que par des objets, des boutons, des vestes d'uniformes, des pendentifs ornés du portrait des chefs révolutionnaires qui circulent grâce aux voyageurs passant par Haïti. Donc les marins noirs jouent un rôle clé dans ce et réseau de communication internationale qui se développe dans tous les ports atlantiques, dans les loges maçonniques, les pensions, les boutiques de prêteurs sur gage, les chapelets et les tavernes. En 1805, un an après l'indépendance haïtienne, certains officiers noirs de la milice du Rio de Janeiro portent autour du cou des miniatures représentant Dessalines. Donc ces récits de Saint-Domingue interfèrent avec les mobilisations politiques locales et contribuent à la création d'une arène transnationale où les idées anti-esclavagistes radicales peuvent se développer. Donc les mythes suscités par Saint-Domingue envahissent l'imaginaire révolutionnaire du monde atlantique et se manifestent de manière très diverse. Un an après l'indépendance haïtienne, des esclaves africains préparant une révolte contre les planteurs français à Trinidad se rassemblent pour un rituel qui fait directement écho à la cérémonie de Bois-Caïman. 1791, escande. Hey, Saint-Domingue, souviens-toi de Saint-Domingue. Ici, Toussaint et ses camarades étaient évoqués dans un contexte quasi-religieuse, mais l'internationalisme des récits domingois pouvait être plus ouvertement idéologique, comme lorsqu'en 1798, la Société des Irlandais, unis témoins de sa solidarité avec ses frères noirs de Saint-Domingue, les républicains irlandais, dont la rébellion fut brutalement réprimée, comparaient fréquemment la domination britannique à une forme d'esclavage. Quand il apprit l'invasion française à Saint-Domingue, le républicain James Napper tendit déclara « Nous sommes tous de la même famille, noirs et blancs, l'œuvre d'un même créateur. Quelques années plus tard, John Sweeney, autre membre de la même société, appela un de ses fils Toussaint, une habitude très répandue parmi les progressistes du monde atlantique durant le 19e siècle. Donc plus nostalgique, le poète irlandais et abolitionniste James Orr publia en 1805 « Les adieux de Toussaint à Santo Domingo », évoquant les thèmes de la douleur, de la destruction et de l'usurpation, ainsi que l'asservissement des petites nations par les grandes. Il entremêlait avec subtilité les destins et les aspirations de Saint-Domingue et de l'Irlande. Les auteurs des rébellions esclaves des Caraïbes et des Amériques étant rarement aussi alphabétisés que les républicains irlandais, peu de traces documentaires de leurs activités ont survécu dans les archives et dans des preuves directes sur la manière précise dont ils s'appropriaient les traditions héroïques de Saint-Domingue. L'île voisine de Cuba fait figure d'exception. Elle devint l'un des foyers les plus actifs de rébellion dans la région, en partie parce que la population esclave tripla à l'époque de la Révolution haïtienne. De 1795 à 1812, on dénombre 19 conspirations ou insurrections majeures, notamment à la Havane, mais aussi à Puerto Principe, Bayamo, Santa Cruz et Guines. De volumineux témoignages produits par les insurgés, retranscrits et conservés dans les archives coloniales espagnoles, mettent en lumière et combien les personnages, les images et les valeurs associées à Saint-Domingue ont influencé la conscience politique des Cubains, esclaves et hommes libres. Ces hommes et ces femmes étaient si fascinés par les transformations de Saint-Domingue que Toussaint Louverture et ses compagnons étaient des noms familiers. Un jour, un journal cubain déclare que les habitants de l'île, connaissant les épisodes de la Révolution haïtienne, comme s'ils les avaient vécus, donc cela n'avait rien d'une hyperbole. Le nom de Toussaint ainsi que celui des autres révolutionnaires figurent fréquemment dans les réponses données par les esclaves quand on leur demande pourquoi ils ont participé aux rébellions. Même quand ils nient être impliqués dans des conspirations, les prisonniers reconnaissent que des personnages tels Toussaint sont fréquemment le sujet de conversations entre esclaves cubains. À de nombreuses reprises, son nom est délibérément utilisé comme un agent pour recruter les conjurés. On promet plutôt aux esclaves qu'ils deviendront les commandants de l'insurrection à venir, au même titre que Toussaint l'avait été à Saint-Domingue. Donc ce qui indique plutôt que son rôle de libérateur et de combattant était largement connu et compris dans les communautés esclaves cubaines. Et ça, c'est un livre qui est créé de Toussaint Louverture. Et puis, Rita avec nous, nous checker avec Coulan Jacob. a nous dit n'a dit à Moscou l'ange merci non adieu madras avec à Moscou l'ange hein. Et son cause bien chita ça là et plutôt nous tendez qui Jean et nous sauter aller un travail ça qui fait sous et sous révolution Saint-Domingue non aspect universel bataille là qui Jean non Toussaint non des salines non toutes messieurs dames qui t'a bataille avec tout monde ça yo en y autant de non paquet histoire soit dans Cuba soit dans différents côtés dans Brésil dans intéressant dans Mexique et puis tout côté ça yo et puis dans toutes les Caraïbes là et tout américain et même en aller plus loin il y a l'autant des n'a pouvait même révolutionnaire et irlandais yo a cité non tout Saint l'ouverture de sa ligne équipe ça parce que il travaille que monsieur fait et n'a dit c'est un travail qui est tout Saint l'ouverture avec Sudir Hazare Essing mon ali haïtien et il assemblé c'est un il y a un professeur dans l'université dans l'Europe yo et n'a dit et camarade et n'a dit camarade et Weber Michel merci parce que monsieur t'a visité fort de jour et puis pendant les fort de jour à l'acheter livre ça a apporté pour moi et m'a dit m'était déjà dit merci mais m'était dit n'a pas lire quelques chapitres parce que j'm'appelle lire le bail ça au moins comment et il faut faire attention moi on dit à forme lire quelques chapitres pour nous tout peut-être puis devant dans quelques autres présentation capable c'est juste peut-être essayer faire une traduction grosso modo et quelque ça yo mais nous comment et yo dou ça dans tout côté ça yo il y a y'a cité non dans toute Amérique latine là c'est dak qui fait non mais moun sa genayo qui pas même genayo qui gen des histoires qui créer quand même mais parce que force goumet tout ça tellement avec monsieur bataille t'a mené hein monsieur dame la kaino donc si nous gagnons ça en dedans jacot non c'est pas petit bandit ou anti haïtien qui prend c'est même si c'est toujours eux même qui n'a pouvoir depuis tout temps qui ba notre traka nous gagnons quand dit mondo et les gars c'est causé dans jacot non pour nous mener pays non plus loin hein et parce que justement en pile fois en pile bail en pile les notions qu'en pile l'autre pays a bien intéressé là d'ailleurs nous t'ai déjà fait travail ça longtemps c'est parce que en pile là nous tout tellement lou et puis yo kembe nous yo fait nous et en marche en retard marcher on qu'on dit et fin de a dit fait n'a traîner et non on a chanté le qu'on fait yo donc c'est ça et gagne mon yo donc en Trinidad yo même parler de yo aller fait pa yo cité et expérience bois caïman pour changer bois caïman c'est là t'est servi pour faire nous et réunir toutes ancêtres qui étaient toutes étaient sorties puis aller en dedans ça causement ça yo et puis c'est ça c'est dans chapitre 12 là moi prends ça c'est la cause de la liberté universelle bon pour deux trois paragraphes encore nous qu'à imaginer Jean reste ça en forme et dans France a écrit c'est à cause monde ça ligue même coup de plume avec et en tenant firme monsieur mon n'a pas ici non et parce que c'est qui ça dit encore monsieur c'est historien et monsieur écrit Sudir ou bien Sudir Hazare Essing Hazare écrit H A Z A R E et puis E encore S I N G H monsieur est historien et professeur à Oxford et membre du jury du prix Guizot. Donc, il a notamment publié « Ce pays qui aime les idées, histoire d'une passion française » et « Flammarion 2015, Grand Prix du livre d'idées » et « Le mythe Goliath, Gaulimard ». Donc, monsieur,
frappé causement ça très bien. Et c'est ça monsieur Yé se dire et puis tout on nous prend quelques passages encore en dedans et même chapitre ça qui parlait nous et donc hein et donc nous voyons Jean Cubain vous parlez de ça tout le temps tout chef Cubain yo l'autre monde côté nous t'expliquer yo et puis il dit Saint-Domingue est également présente à l'esprit du révolutionnaire cubain actif dans les villes. En 1812, à la suite d'une série d'insurrections commencées ou préparées dans plusieurs villes de province, les autorités arrêtent José Antonio Aponte, un noir, libre, charpentier et artiste autodidacte qui habite dans le faubourg de la Havane. C'est un ancien capitaine de la milice locale, membre important d'une société fraternelle africaine. Son réseau rassemblait des artisans alphabétisés, des chefs de cabildos, des membres de la milice et des esclaves noirs. Les interrogatoires révèlent qu'Aponte et ses co-conspirateurs préparaient des plans d'envergure pour une insurrection générale visant à émanciper les esclaves. Donc, ils font aussi apparaître une nouvelle dimension de la contagion domingoise. Les conspirateurs avaient fait courir le bruit que, pour renforcer la rébellion, les autorités haïtiennes avaient envoyé 2 officiers et 5 000 hommes en armes qui attendaient dans les collines autour de la Havane. Donc, parmi les objets trouvés lors de la fouille de la maison d'Aponte, il y avait une vareuse militaire bleue, l'uniforme de l'armée révolutionnaire depuis Toussaint, qu'il portait probablement pour rendre plus crédibles les histoires d'implication haïtienne. Mais l'objet le plus étonnant découvert dans sa bibliothèque était un recueil d'images où d'Aponte avait rassemblé le portrait de grands héros internationaux dont George Washington, des divinités grecques et romaines, des rois d'Éthiopie et des révolutionnaires haïtiens comme Christophe Dessalines et Toussaint Louverture. Aponte fut interrogé pendant 3 jours sur ce livre qu'il avait constitué en collectionnant depuis plusieurs années des images qu'il trouvait auprès de Noirs travaillant dans le port de la capitale cubaine. Comme des milliers d'hommes et des femmes à Saint-Domingue, ils conservaient chez eux ces portraits comme autant de précieuses reliques. Donc, Aponte en avait fait des copies et les utilisait pour diffuser ses idées révolutionnaires lors des réunions qu'il organisait chez lui. Bien que nous n'ayons pas d'archives rapportant ce qu'il disait précisément sur Toussaint, on peut imaginer que le général noir aurait été un exemple parfait pour illustrer l'idéal étonnamment éclectique que d'Aponte se faisait de l'émancipation républicaine. En 1824, l'écrivain et député de couleur haïtien Érard Dumel publie son voyage dans le nord d'Haïti. Né au Caï, ville du sud de l'île dont il est député, Dumel rédige une évocation poétique de l'histoire tumultueuse de son pays après l'indépendance. Dessalines, le premier dirigeant du nouvel État, a juré en 1804 que dorénavant plus aucun colon ou européen ne mettrait le pied sur l'île comme maître ou propriétaire. Presque tous les colons blancs encore présents sur le territoire sont tués. Dessalines se proclame empereur en octobre 1804, mais son règne ne dure pas car il est assassiné 2 ans plus tard. Sa mort est suivie par une division de fait entre un royaume au nord, dirigé par Christophe de 1807 à 1820,
et une république au sud gouvernée entre 1807 et 1818 par le dirigeant métis Alexandre Pétion, un autre héros de la guerre de l'indépendance que Dumel admirait beaucoup. Au cours de ses voyages, Dumel rassemble les témoignages d'habitants et visites des sites révolutionnaires importants, d'où le sous-titre de l'ouvrage « Révélation des lieux et des monuments historiques ». Donc, grâce aux informations récoltées auprès de ces sources diverses, il peut fournir un récit détaillé de la cérémonie de Bois Caïman en 1791. Donc, il s'agit d'un des premiers livres rédigés en Haïti dans le but de célébrer la contribution des esclaves noirs à la Révolution. Donc, l'une des scènes les plus frappantes se déroule durant la visite de la villa construite par Pétion à Volant-le-Thor dans le nord-est d'Haïti. En entrant dans le somptueux salon, Dumel découvrit une pièce conçue pour célébrer l'héroïsme universel. Donc, comme dans la musée, ou comme dans le musée personnel d'Aponté, on y trouve des portraits de grands Européens qui se sont battus pour libérer l'humanité de l'esclavage, dont Reynald Labbé, Grégoire et William Wilberforce, le célèbre abolitionniste anglais qui avait été à la pointe du combat pour interdire la traite en 1807. Ce qui frappa particulièrement le regard de Dumel fut de voir une liste de 8 noms haïtiens inscrits en lettres d'or à côté de ces grandes figures historiques. C'était étaient des gens de couleur, dont les éminents martyrs Auger et Chavannes, le seul nom noir placé juste à côté de celui de son ancien ennemi Grigaud était celui de Toussaint Louverture. Donc Dumel fut trouvé. Alors il fut troublé de ce hommage rendu à Toussaint. Plutôt que dans son voyage, il avait décrit l'ancien gouverneur comme un homme non moins dissimulé qu'ambitieux, un tyran qui a trempé ses lauriers dans le sang de ses concitoyens et responsable des terribles atrocités pendant la guerre des couteaux. Donc, telle était l'opinion commune des intellectuels de couleur en Haïti pendant la première moitié du 19e siècle. Mais Dumel est forcé de reconnaître que malgré ses failles, Toussaint est une figure déception. En réalité, l'agencement du salon de Pétion est sympathique du destin posthume de Toussaint dans son pays natal. Dans les historiens de couleur, il le critique violemment et officiellement. Il est renié par les dirigeants noirs tels Christophe et Dessalines qui ont été ses subordonnés. Cependant, Toussaint refuse de s'effacer. Il demeure une présence magnétique dans l'esprit et la mémoire de ses compatriotes. Les anciens soldats de son armée continuent à le révérer, gardant précieusement des images et des reliques de lui. Ils raconteront plus tard leurs épopées à l'historien Thomas Madiou, dont les récits des engagements militaires de la période révolutionnaire sont largement fondés sur des témoignages d'anciens soldats. À son crédit, il faut reconnaître que Pétion finit par intégrer leur point de vue dans sa réflexion sur les héros de la nation, même si Pétion a été un adversaire implacable de Toussaint avant 1802. Il a fait alliance avec Rigaud pendant la guerre des couteaux et est revenu le combattre avec l'armée de Leclerc. Il reconnaît qu'il a joué un rôle essentiel pour transformer la destinée des siens et faire avancer la cause de l'émancipation des esclaves de l'ensemble du monde atlantique. Donc cet héritage républicain était sans aucun doute présent à son esprit quand il offrit l'asile à Simon Bolivar en 1815, au moment précis où s'achevait la construction de sa villa, puis qu'il lui fournit une aide cruciale au Libertador dans sa campagne pour l'indépendance de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. La première apparition de Toussaint dans l'iconographie officielle de l'État haïtien survient au début des années 1820, quand le président Jean-Pierre Broyer, un homme de couleur, commande une série de gravures pour honorer les grands hommes de la nation. Après la mort de Christophe et de Pétion, les forces de Broyer avaient envahi le Nord et remis en place un gouvernement unifié en Haïti en 1820. La décision d'inclure Toussaint dans cette décision reflète l'admiration personnelle de Broyer. Quand il était jeune officier, le désormais président avait connu le commandement en chef, qu'il avait chargé de fournir un régiment de cavalerie dans l'Ouest. Mais il s'agit principalement d'un geste politique destiné à trouver un symbole consensuel de l'unité nouvelle du pays et surtout un symbole qui parlerait aux populations noires du Nord. De plus, au début des années 1820, Haïti est encore très largement considéré comme un État paria. Elle n'est toujours pas reconnu par les grandes puissances et menacé militairement par elles. En 1822, mettant ses pas dans ceux de Toussaint, Broyer a réenvahi Santo Domingo et qui était repassé sous contrôle espagnol. Et il y a de nouveau aboli l'esclavage. Donc le prix qu'il est forcé de payer pour obtenir la reconnaissance de la France et la dédommager de la perte de sa colonie est une ruineuse indemnité de 150 millions de francs. Donc en des temps aussi difficiles, l'image de Toussaint pouvait donc aussi être brandie comme une icône du nationalisme haïtien. Donc, destinée à être largement diffusée, les quatre gravures commandées par Broyer sont éditées en France. Les autorités haïtiennes supervisant avec attention le choix de chaque épisode historique et la formulation des textes qui les accompagnent. Elles sont l'œuvre des deux artistes au moins, et pour répondre à la sensibilité esthétique des dirigeants de couleur haïtiens, les traits de Toussaint et sont quelque peu européanisés, ce qui contraste avec l'aspect négroïde qui caractérise plus généralement ces portraits de la première moitié du 19e siècle. Donc, la première gravure intitulée et entrevue de Toussaint Louverture et du général Maitland représente Toussaint montrant des documents à l'officier britannique. La longue légende explique que Toussaint avait reçu l'ordre d'arrêter Maitland, mais qu'il avait refusé, déclarant qu'il serait déshonoré s'il obéissait, car Maitland était venu le rencontrer de bonne foi. Donc un incident qui avait eu lieu, nous l'avons vu au chapitre 9, au moment où Toussaint négociait la convention Maitland en 1799. Donc le message était triple: souligner l'authentique esprit républicain de Toussaint, démontrer par-delà son intégrité personnelle que le gouvernement haïtien était digne de confiance et célébrer en dernier lieu un moment clé dans la conquête de la souveraineté nationale. La deuxième gravure, Toussaint Louverture proclame la Constitution de 1801, représente le gouvernement brandissant le document sacré, assisté des mandataires chargés des pouvoirs du peuple.